Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Ah oui, toujours.
C'est bien. Moi, un petit peu moins. Parce que Dominique a eu quelques soucis de santé cette nuit. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Merci pour vos prières. Mais ça va aller. Voilà, super. Alors, une question pour le titre ou le thème du message aujourd'hui. Es-tu un ustensile d'honneur utile? Il y en a qui connaissent bien leur Bible, alors ils voient déjà le passage, peut-être. Mais on va garder un petit peu de surprise d'abord. Une question, c'est par exemple, si vous deviez accueillir le grand-duc et la grande-duchesse chez vous, comment est-ce que vous allez les accueillir? Comment vous allez dresser la table? Un peu dans ce genre-là, avec vraiment des plats basiques et des ustensiles de tous les jours, pas très, un peu crado. Comment ça se dit par ici, crado? C'est suisse. Vous avez compris. Ou alors, plutôt, une table magnifique, avec les meilleurs couverts, les plus beaux, les plus belles assiettes, les plus beaux verres, etc. Je pense qu'on sera d'accord qu'on va plutôt dresser une table de ce genre-là. Peut-être qu'on n'a pas quelque chose d'aussi beau, mais on va faire mettre ce que l'on a de mieux, de plus beau pour eux, pour les honorer. Et aujourd'hui, donc, nous allons analyser un texte biblique moyennement connu, je pense, à vous de voir, qui parle d'ustensiles nobles et d'ustensiles ordinaires. Dans certaines versions de la Bible, les mots sont « vase d'honneur » et « vase de déshonneur ». Et le passage en question est donc une parabole, une illustration utilisée par l'apôtre Paul pour illustrer une vérité spirituelle. Et après l'avoir analysée, je vous poserai la question « si vous êtes ou voulez devenir un ustensile, un serviteur, une servante, noble, utile pour le Seigneur, ou au contraire rester un ustensile quelconque, peu ou pas utile pour le Seigneur. » Le passage se trouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 2:2. Alors c'était marrant parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au Urban Gospel Festival à Esch hier soir. Quelqu'un était là? Donc on y était, pas toute la journée, mais à un moment donné, un des chanteurs, il parlait en chantant, il y a un Timothée, il y a 2 Timothée. Je suis là. Voilà, aujourd'hui c'est 2 Timothée. Mais bon, pas en chantant, pas en dansant, parce que c'est pas trop mon truc. Voilà, on va lire alors ces passages. C'est donc dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 22. Et je lis dans la version second 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donc nous allons analyser ce passage aujourd'hui, avec le but de nous motiver à une vie plus sanctifiée et plus utile pour le royaume de Dieu. Alors on va voir un peu d'abord le contenu de la lettre. Alors c'est vrai que c'est important comme ça, mais je résume en gros tout ce que Paul va dire. Et il faut savoir que ce livre de 2 Timothée, c'est le dernier écrit de Paul, que l'on a dans nos Bibles. Peut-être qu'il a écrit d'autres, mais ça n'a pas été préservé. Et donc, c'est un peu son testament spirituel à l'un de ses fils spirituels, à un de ses serviteurs qu'il a formé, qu'il a pris avec lui, qu'il a aussi prié pour lui. Et dans le premier chapitre, Paul encourage Timothée à ne pas être timide. Et donc, tout ce que je dis, ce n'est pas seulement pour Timothée, mais pour chacun de nous. À raviver la flamme du don qu'il a reçu par imposition des mains, à témoigner, à être prêt à souffrir, ça on aime moins. Mais généralement, et Jésus l'a dit, ceux qui voudront, et Paul l'a dit aussi, ceux qui voudront vivre une vie sainte, qui plaisent au Seigneur vont, ça ne sera pas toujours facile. Voilà. On peut être un peu plus gentil, mais voilà. Et il encourage à rester fidèle au Seigneur et à la saine doctrine. Hein, il y avait des faux docteurs, donc des gens qui propageaient des erreurs doctrinales à Éphèse, hein, c'est là où Timothée exerçait son ministère. Dans le début du deuxième chapitre, Paul instruit Timothée de se fortifier en Jésus, ça il faut toujours, hein, se fortifier en Jésus, on a besoin, et de transmettre les enseignements qu'il a reçus à des personnes qui seront aptes à les transmettre à nouveau. Hein, et puis c'est un petit peu aussi à différents niveaux, hein, même à l'école du dimanche, on transmet, et peut-être, certainement, enfin j'espère, que certains des enfants vont par quand ils seront grands, peut-être aussi être des moniteurs, peut-être des prédicateurs, je ne sais pas, même des enseignants à l'école biblique. Il faut les discerner, ces personnes. On n'est pas tous doués pour ça, mais en tout cas pour Timothée, c'était son cas. Et puis Paul renouvelle son exhortation à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, à persévérer dans la foi. Il supplie Timothée d'être un bon serviteur et à rejeter les faux enseignements propagés par certains qui se perdent spirituellement et moralement. Paul rappelle que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et ce qui doit les distinguer, c'est qu'ils s'éloignent du mal. Ensuite, il y a notre passage qui arrive, suivi d'autres exhortations à repousser les fausses doctrines et à éviter les conflits en corrigeant les adversaires. Au troisième chapitre, il y a des conseils pour les temps difficiles des derniers jours. Ça, je vous conseille de lire ce passage, là, chapitre 3, le début, et on est en plein dedans. Hein, les gens abandonneront la saine doctrine, les choses qui dans le passé étaient censées être bonnes, elles sont considérées comme mauvaises. Une manière de vivre change complètement et s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Et puis dans le dernier chapitre, le quatrième, Paul demande à Timothée encore de prêcher la parole et de bien remplir son ministère en contrant les faux enseignements. Ça, c'est vraiment le thème principal de cette lettre. Et puis il termine avec quelques nouvelles sur lui et des demandes pratiques et des salutations comme à la fin de toutes ces lettres. Alors analysons un petit peu ce texte de Timothée 2. Peut-être, en tout cas quand je préparais, je me suis dit, peut-être que Paul avait en tête un des passages que Jésus a vécu et les paroles de reproche que Jésus a faites aux scribes et aux pharisiens. Par exemple, dans Matthieu 23, versets 25 et 26. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. » Hein, on retrouve un petit peu ces images de coupe, de l'extérieur, l'intérieur, et la nécessité d'être pur à l'intérieur. Dans ce passage, il est clair qu'on peut peut-être, de manière extérieure, paraître bien, beau, saint, un bon chrétien, mais le Seigneur, il sait ce qu'il y a en nous. Et je pense que si on est honnête, ça nous est un peu tous arrivé à des moments de ne pas avoir forcément un très bon comportement. Mais en tout cas, c'est important, c'est pas tellement l'extérieur qui compte, c'est surtout l'intérieur. Et puis si on est sain à l'intérieur, ça se verra naturellement à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de faire le show. Parce que ça marche pas. Et devant le Seigneur, lui, on peut tromper peut-être les hommes, mais le Seigneur, on ne peut pas le tromper. Ouais, là, j'ai pris un petit masque. Hein, c'est la question. C'est la même chose. Hein, des fois, on dit alors, comment ça va? Ouais, ça va super. Puis bon, en fait, ça va pas du tout. Bon, là, c'est un peu moins grave. Mais au niveau de la moralité, c'est important. Le Seigneur, comment est-ce qu'on se comporte quand il n'y a personne qui nous voit, quand on est tout seul? Est-ce qu'on pense aussi? Est-ce qu'on se laisse aller dans des mauvaises directions? Ou est-ce qu'on est vraiment. On cherche. On n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais est-ce qu'on cherche à tout prix à plaire au Seigneur? Et donc, comme un bon prédicateur, l'apôtre Paul utilise une illustration. Hein. Heureusement, parce que s'il était que dans de la théologie de haute voltige, hein, par exemple, enfin, si vous prenez certains passages dans Romains, quand il parle avec le peuple de Dieu, les Juifs, et on se dit, heureusement, de temps en temps, il y a des images qu'on comprend très facilement. Mais c'est important de voir un peu qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Et c'est vrai que les images sont percutantes, c'est pour ça, enfin, j'espère. Les images que j'ai choisies peuvent aussi aider à capter, à retenir ce message. Donc il dit dans une grande maison. Alors je pense qu'il précise, hein, parce qu'évidemment dans quelqu'un de pauvre, il ne va pas avoir des ustensiles en or. Ça, c'est, hein, même chez nous, peut-être vous en avez, moi je n'en ai pas. Hein. Ou alors c'est vraiment juste un tout petit peu là, en tout petit bout, comment dire, en surface. Donc il précise, dans une grande maison, il y a des ustensiles en or, en argent, en bois et en terre cuite. Alors j'ai fait une petite recherche. Alors bon, on ne va pas forcément utiliser des calices comme ça à la maison, mais sur Internet, et j'ai cherché les prix. Donc un calice comme ça, si vous voulez, hein, si vous avez des sous, hein, ça vaut presque 7000 euros. On voit, l'or, ça n'arrête pas de monter, hein, pour ceux qui travaillent dans les finances. Ou peut-être même pas, vous avez lu dans les journaux, avec les problèmes qu'il y a dans le monde, le cours de l'or monte. Le cours du chocolat aussi, d'ailleurs. Hein. Mais bon. Ensuite, l'argent. Si on prend une coupe, un calice en argent, ça reste quand même assez cher. Mais bon, on voit que le prix a déjà bien diminué, mais ça reste quand même pas mal. Hein. Surtout si vous deviez servir 12 calices comme ça à la maison, il faut déjà quand même. C'est pas mal. Et puis, on descend dans le prix des ustensiles, un bol en bois d'olivier, 175. Bon, c'est quand même encore assez cher. Hein. Bon, là, je pense que c'est un tout grand bol. Je pense qu'on peut peut-être en trouver des moins chers. Et puis, en terre cuite, là, c'est moins cher, 159 euros. Hein. Et puis, bon, alors, si ça, j'ai appris un peu des choses de l'époque. Mais si on est aujourd'hui, ben, vous pouvez acheter vos couverts chez Villeroy ou alors chez Ikea. Il y a aussi une différence de prix. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est donc aussi la matière noble pour un noble usage ou les matières ordinaires pour un usage ordinaire. Les beaux couverts, les belles assiettes, etc., on va les utiliser pourquoi ? Pour des événements exceptionnels en or, mais c'est pour des mariages, pour des invités de marque, hein, comme... Le grand duc ou la grande duchesse ou quelqu'un d'autre, des fêtes de famille, l'argent, il y a un mélange d'or et d'argent, ça peut être pour des mariages, ça peut être des fêtes religieuses, des anniversaires. Et puis alors les ustensiles de tous les jours, bah, c'est pour la vie de tous les jours, rien de spécial. Hein, voilà, bon, j'ai pris exprès un peu vraiment des images, mais voilà, pour les occasions, il n'y a pas d'occasion, hein, c'est pour la vie de tous les jours, voilà. Et puis, alors, dans le texte quand même, oui, j'ai fait quelques recherches, hein, donc il parle d'usage méprisable, hein, donc ça veut dire que ça peut être pour être utilisé pour, par exemple, pour récolter les déchets, hein, ou alors pour les restes, hein, ou la poubelle de table, certains en utilisent. Il y a différentes manières de traduire dans les différentes versions. Alors, on a honorable et vulgaire, d'honneur ou vil, honneur, déshonneur, noble, vulgaire. Et puis, dans les versions, on va dire, plus modernes, dans français courant, occasion spéciale, usage courant. Donc là, on adoucit un petit peu. Hein. Et puis, parole de vie, jour de fête ou de tous les jours. Donc ça couvre un peu tout ce que j'ai décrit. Et donc, pour pouvoir être bien utile au Seigneur, prêt pour toute bonne action à son service, il faut donc être un ustensile ou un vase noble. Ça veut dire saint. Il faut donc se purifier de ceux qui souillent, et y compris des faux enseignements. Alors, les faux enseignements dans notre Église, je ne pense pas qu'il y en a des masses. Dans le sein de l'Église universelle, malheureusement, il y a un peu à boire et à manger, si je puis dire. Et puis, alors, dans le monde, les faux enseignements, il y en a plein. Donc, on doit se garder de cela. Et Paul précise cette nécessité de se purifier. Alors, j'ai pris une image là. Hein. Je veux dire, si vous deviez manger dans une assiette qui n'a pas été nettoyée avant, Je ne suis pas sûr que vous aimeriez, hein, ça c'est sûr. Donc, pour pouvoir bien servir le Seigneur, on doit être purifié. Et puis, donc, Paul utilise des images assez fortes. Oui, si tu peux mettre la suivante. Là, je prie une image de Joseph qui fuit la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Hein. Donc, elle a essayé plusieurs fois et à la fin, il a dû fuir. Hein, j'aimais bien cette image parce que Paul dit il faut fuir les passions de la jeunesse. Alors, le mot passion, bon, ça a différents sens. Hein. Moi, je suis passionné de tennis. Voilà, c'est neutre. Mais par contre, les passions, dans le terme grec, épithymia, ça signifie les convoitises, le désir ou l'envie pour ce qui est interdit. Alors évidemment, on pense tout de suite à la convoitise sexuelle, surtout peut-être pour des jeunes qui sont célibataires, ou même si on n'est pas moins jeune, mais ça couvre aussi d'autres choses. Peut-être, ça peut être l'impatience, ça peut être l'arrogance, la vaine gloire. Alors là, j'ai pris des images modernes. Moi, ça me fait toujours, je ne sais pas comment, mais il y a des gens, des milliers, voire des millions de gens, ils suivent un gars ordinaire ou une fille ordinaire qui se prend en photo, qui raconte un peu sa vie, etc. C'est de la vaine gloire, vraiment. Et puis bon, il y a pire que ça, évidemment, malheureusement. Mais là, je ne vais pas montrer. Voilà. La recherche de la popularité, voilà, ouais, c'est aussi ça, hein, sur Instagram et autres réseaux sociaux. Se sentir supérieur aux autres, ça peut être. Les querelles aussi, le mépris des autres. Les faux enseignants avaient tous ces défauts, certainement. Timothée devait donc faire tout ce qu'il pouvait pour éviter ces mauvais comportements. Et Paul dit bien fuir. Hein. C'est important, j'y reviendrai. J'aurai une autre image avec ça. Et puis, la deuxième encouragement, c'est de rechercher, dans ce côté positif, rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec les frères et sœurs en Christ. Tout le contraire des faux enseignants donc, qui cherchaient querelles et disputes de mots et dont la manière de vivre laissait à désirer. Et puis, donc là, j'ai pris une image, un tableau assez connu de simples paysans, mais qui vraiment, ils ont planté, ils ont semé, je pense, et puis ils prient pour que le Seigneur bénissent leur récolte. Et c'est ça aussi ce qu'on doit faire quand on sert le Seigneur, c'est de bénir la semence que l'on sème, de ce que l'on fait. Alors, la mise en pratique. Dans l'analyse du texte, je n'ai pas été trop en profondeur, ce n'est pas un texte très compliqué. Et donc, il y a ces deux points, hein, ces deux axes. Le premier, c'est donc de la nécessité de se purifier moralement, de chercher la sanctification. Et ça signifie qu'on doit s'éloigner du péché et chercher à nous rapprocher toujours plus du Seigneur. Hein, donc là, je trouvais bien cette image, là, la fille qui fuit le péché, et puis on vient vers Jésus, parce que, bien sûr, il faut fuir le péché, mais on a demandé à Jésus de nous purifier. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il est dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Il n'y a pas que ça, mais c'est du péché en général. Et alors des fois, c'est vrai, on progresse puis on chute, mais il ne faut pas rester là. Il faut demander pardon à Dieu et puis reprendre. Il va nous relever, il va nous aider. On a besoin de l'Esprit, on a besoin de Jésus pour vivre une vie saine, la plus sainte possible. On a besoin. Et ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment donné, c'est comme dans les jeux vidéo. Il y a certains jeux, il y a une fin. On peut arriver à une fin si on est très bon, avec des heures et des heures de... Bon, on ne sait pas forcément, mais voilà. Moi, je me souvenais, quand j'étais jeune, il y avait un jeu que je jouais, je me disais, mais j'arrive jamais au bout, j'arrive jamais, jamais. C'était, je crois que ça s'appelait Arkanoid. Il fallait rattraper des balles qui... C'était un vieux jeu, hein, des années 80. Et puis, et à un moment donné, j'ai réussi. J'ai arrivé au bout, c'était incroyable, il fallait avoir des réflexes, pas possible. Et puis, il y a certains jeux, il n'y a pas de fin. Parce qu'il faut toujours progresser, ils inventent toujours des nouveaux trucs. Et puis aujourd'hui, avec l'informatique, hein, même si tout à coup, ils voient qu'il y a des joueurs qui arrivent proches de la fin, ils modifient pour ne jamais y arriver. Mais avec la sanctification, c'est ça. Il y a toujours moyen de progresser. On n'y arrive jamais, on n'est jamais arrivé au but. Sauf lorsque le Seigneur nous reprend. Et là... Et c'est aussi bien, parce que si on a, à un moment donné, il n'y a plus d'objectif, bah, on se lasse un peu. Mais là, avec le Seigneur, il y a toujours matière à progresser dans tous les domaines. Alors, donc s'éloigner de l'immoralité, bien sûr, il y a tout ce qui est sexuel, mais ça peut être tout ce qui peut nous souiller. Et donc, il faut aussi faire attention à ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons et ce que nous faisons. Hein, et là, on peut citer le passage bien connu, les œuvres de la chair. Oui, donc, discerner entre le bien et le mal. Good, ça veut dire bien. Bad, le mal, vous ne savez pas, mais voilà. Et puis, donc, dans Galates 5, versets 20 et 21, les œuvres de la chair, les choses à éviter. C'est pas une liste exhaustive, mais ça donne encore une petite idée. L'adoration des idoles, ça peut être parfois de soi-même, hein, parce que le narcissisme aujourd'hui, il est bien là. D'ailleurs, malheureusement, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais plus la marque, enfin si je sais, mais je ne vais pas la citer, c'est marqué « I love me ». C'est terrible, quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais voilà. Si on s'aime que soi-même, c'est... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous en dire ? La magie, donc les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Et si on est attentif à l'esprit, oui, là j'ai mis un peu des légumes et fruits pourris, hein, c'est les œufs de la chair. Si on est attentif à l'esprit, il va nous faire sentir mal par rapport à quelque chose. La situation dans laquelle on est, soit c'est quelque chose qu'on regarde, quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on écoute même. Si on est attentif, il va nous dire « Ah, ça, c'est pas bon ». Et après, c'est à nous de choisir. Soit on continue, soit on s'arrête, on fuit. Donc écoutons-le et avec son aide, renonçons aux souillures morales et spirituelles et autres mauvais comportements. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors nous, on a notre part, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses, on n'est pas obligé d'aller acheter certaines choses ou d'écouter certaines choses. Parfois, on n'a pas le choix, hein. Vous allez dans un magasin, il passe de la musique, des fois c'est des trucs un peu craignos. Et après, on rentre, on est à la maison, puis on se met à chanter des trucs, puis ah non, j'ai pas envie de chanter ça, moi. Ah non. Mais voilà, on doit être partenaire avec l'esprit pour se sanctifier. Ensuite, il y a les choses donc qu'on a vu à éviter, puis il y a les choses à mettre en pratique. Le fruit de l'esprit. Aussi, c'est la suite de Galates 5, versets 22-23. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est pas facile, la maîtrise de soi. Moi, tous les jours, quand je vais au travail, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, avec les conducteurs qui sont pas très rapides, ceux qui font des erreurs, on a envie de... Ah, qu'est-ce qu'il fait ça ? Ouais, maîtrise de soi, c'est pas évident. Mais avec un collègue, ou peut-être des fois c'est son conjoint, son enfant. Mais on a besoin de l'esprit, parce que c'est pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit. C'est en laissant l'esprit de Dieu nous travailler que ensuite on peut s'améliorer dans ces qualités-là. Il y a aussi une autre image utilisée par Paul dans Éphésiens 4, versets 22 à 24. Par rapport à la sanctification, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, et à être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. Hein, donc se dévêtir du vieil homme, alors j'ai pris l'image d'un gars qui a travaillé dans le cambouis. Là, je ne pense pas que vous lui ferez un câlin. Hein. Non oui. Et puis, le Seigneur, quand il nous purifie, voilà, avec une belle chemise blanche, voilà. C'est une autre image assez parlante. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de la mise en pratique, donc après la sanctification, c'est se rendre utile pour le Seigneur. Une fois qu'on est purifié, qu'on continue à progresser dans la sanctification, on peut devenir alors un ustensile de valeur et qui pourrait être utile, prêt pour toute bonne œuvre. Alors qu'est-ce que ça peut bien signifier ? La Bible nous dit que, oui, on doit être serviable, hein, et ça ne doit pas être une corvée. Hein, j'ai bien aimé dans certaines des prières et puis aussi dans les chants, hein, il a parlé de l'amour que Dieu a pour nous, et nous, on doit avoir de l'amour pour lui en retour, parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés, et le service pour Dieu, ça doit être fait avec la motivation, pas pour lui plaire, mais par amour, pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Et la Bible dit dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11, que chacun de vous, toi là-bas, oui, même ceux derrière, tout au fond, ou tout devant, chacun de nous a reçu un don de Dieu, de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Hein, donc là aussi, la motivation, ce n'est pas pour se dire « Ah, regardez-moi ce que j'ai fait pour le Seigneur. Hein? Ah, regardez ça. Hein? Ah, j'ai une église, au début, elle avait 50 personnes et maintenant, elle a 500. » Non. Quand on sert le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Et aussi, hein, il dit que à Dieu appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Et justement, ce que l'on peut faire pour Dieu, c'est des choses qui vont rester pour l'éternité. Quand on sera au ciel, on va voir toutes les personnes qui ont été impactées par notre vie. Enfin, j'espère qu'il y en aura le plus possible. Hein, mais moi, je me réjouis parce qu'il y a des choses, bon, on le sait, par exemple, moi, je me souviens, il y avait un jeune... quand j'étais responsable du groupe de jeunes à Genève, il était enfant de chrétien, mais il n'était pas chrétien. Et puis, comme un peu avec tous les autres jeunes, j'ai essayé de lui parler, de l'encourager à lire sa Bible, à chercher le Seigneur, voilà, des choses comme ça, basiques. Bon, ce qui était bien, c'est qu'il aimait la même musique que moi, donc voilà, je lui prêtais des groupes, de la musique de groupe chrétien et tout ça. Puis, bah, finalement, il s'est converti. Et puis aujourd'hui, il est missionnaire en Afrique. Donc là, je sais, c'est génial, j'ai participé un petit peu, parce qu'évidemment, il y a ses parents qui priaient pour lui, certainement beaucoup plus que moi encore. Mais il y a des choses qu'on aura faites, peut-être on a parlé de Jésus à quelqu'un, puis sur le moment, la personne, elle n'avait rien à cirer, pour être poli. Mais peut-être que par la suite, et on va la retrouver au ciel. Et vous aurez été aussi un élément, un maillon de la chaîne pour l'amener auprès du Seigneur à croire en Jésus. Il y a un autre passage qui parle des dons à mettre en pratique, c'est dans Romains 12, versets 6 à 8. Nous avons des dons différents. Et ça, c'est important. Hein, parce que, par exemple, si vous vous dites, moi, je prêche là, Paul, il prêche, voilà, il prêche bien. On a de la chance, hein, moi je vous dis. Hein. Parce que j'ai été dans les églises, il fallait s'accrocher. Mais tout ça pour dire, on a des dons différents. Et vous vous dites, moi je ne peux pas prêcher. Bien sûr. Moi par exemple, je ne peux pas bricoler. Enfin, je dois parfois, parce qu'il y a des choses à réparer dans la maison, et je suis mauvais. J'ai déjà cassé 4 tondeuses. et la nouvelle qu'on vient d'avoir, j'ai déjà cassé un morceau. Bon, elle va toujours, mais on ne peut plus la replier. Donc, voilà. Puis bon, chanter, vaut mieux pas. Hein. Il pleut déjà assez. Voilà. On a des dons différents. Et puis, il y a des choses que vous savez faire et vous les faites bien. Ne pensez pas que c'est un don, mais c'est un don. Selon la grâce qui nous a été accordée, ces dons. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Alors, il faudrait toute une prédication, peut-être même une retraite pour parler de tous les dons. Il y a déjà les dons spirituels, et puis il y a tous les dons qu'on trouve mentionnés dans la Bible. Là, on en a vu quelques-uns. Puis encore d'autres choses. Donc moi, je vais juste les citer, et puis peut-être ça va faire tilt dans votre tête. Ah tiens, oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai, peut-être. Et puis, si vous ne savez pas forcément quel est votre don, votre talent, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous connaît bien. Hein? Et puis aussi, ben, vous pouvez simplement voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin. Et puis, les choses que vous faites bien et que vous aimez faire, vous avez une bonne indication, c'est un don. Alors, il y a par exemple édifier ou encourager les autres. Bon, ça, tous les chrétiens, on est appelés à faire ça. Mais il y en a qui ont ce don plus particulièrement. Ensuite, il y a nous aider les uns les autres de manière pratique. Prier les uns pour les autres. Certains ont même vraiment ce don, ce fardeau d'intercession pour l'Église, pour le pays, les pays, pour les différentes choses. Et puis, ils ont le temps aussi pour ça. Il y a des gens, moi je ne sais pas comment ils font, prient des heures par jour. Hein, moi, des fois, c'est 5 minutes, c'est déjà difficile, certaines journées. Être généreux financièrement, selon nos moyens, selon comment le Seigneur nous conduit, soit pour l'Église ou pour toute œuvre missionnaire ou œuvre chrétienne. Exercer nos dons spirituels. Je l'avais lu au début, hein, Timothée, il avait, semble-t-il, au moins, enfin, je ne sais pas si c'est le don de prophétie, d'enseignement ou autre, mais il a dit « ranime ton don ». Et peut-être certains, on l'a mis un peu au placard, pour une raison ou une autre. Ranime le don, exercez vos dons. Se rendre utile là où il y a un besoin. Des fois, bon, on doit faire des choses, puis tout à coup on se rend compte « ah ben finalement, j'aime bien faire ça ». Et puis les gens ils disent « ah ouais, tu le fais bien ». Donc, si on vous dit « peut-être qu'on va trouver autre chose à faire pour toi », on s'en rend compte. Ça peut être moniteur d'école du dimanche, monitrice, responsable du groupe de jeunes. On ne peut pas dire qu'il y en a une dizaine. Voilà. Ça peut être nettoyer l'église, tout simplement. Chanter, jouer d'un instrument de musique, s'occuper de la projection à la place de notre pasteur. Peut-être, si vous êtes, ça vous dit, je suis sûr qu'il serait content. Ça peut être s'occuper du son aussi. Si David n'est pas là... Il y a un problème. Bien qu'il y en ait d'autres aussi. Par exemple, transporter des personnes en voiture, des personnes qui ont. Peut-être il y a personne qui peut les amener à venir à l'église. C'est tout simple, hein, c'est facile. Ouais, ça prend un peu de temps, un peu d'essence, diesel, d'électricité. Mais, et puis, lors du transport, on peut discuter. Donc, il peut vraiment y avoir. Tu peux être un ministère vraiment important. Le bricolage. Alors, ça peut être le bricolage, on va dire, par exemple, que les enfants font à l'école du dimanche, mais aussi le bricolage dans la maison, dans la mécanique même, peut-être, pour les voitures ou autres. Parler du Seigneur, visiter les malades, prendre des nouvelles de quelqu'un qui passe par un mauvais moment. Ça peut être dans le domaine informatique, s'occuper d'un site internet. Si je devais poser la question à toutes les personnes qui sont là, combien il y en a qui ont trouvé cette église grâce au site internet de l'église? En tout cas, il y a moi. Mais je sais qu'il y en a quelques autres. Et puis, il y a plein les sites, il y a plein de sites internet chrétiens qui peuvent vraiment permettre d'édifier les gens. Il y a aussi la traduction. La traduction, comment ça s'appelle encore? Caroline. Certains la connaissent, bon, elle est venue récemment en visite, elle a traduit des livres, d'anglais à français. Ça peut être aussi quand il y a un prédicateur en anglais ou en portugais qui viendrait et puis quelqu'un le traduit. Alors ceux qui savent déjà l'autre langue, ça va, mais ceux qui ne parlent que le français, par exemple, ben, on est content quand il y a une traduction. Ça, c'est aussi un don important à mettre, on peut mettre en pratique. Il y a le dessin et puis autres talents artistiques. Et puis, là, je vais vous avouer, ce qui m'a inspiré pour ce thème de cette prédication, c'est un email de David Porter, les taches de café. Il y en a qui connaissent, là, qui montent, il y en a quelques-uns. C'est pas mal. Je n'ai pas le temps toutes les semaines, je crois, à peu près. Je n'ai pas le temps tout le temps de les lire, mais là, il y en avait une, il parlait de notre mission pour Dieu. Il disait que tu as une mission pour Dieu durant ta vie sur Terre. Et la question, est-ce que tu es en train de l'accomplir? Et surtout, veux-tu l'accomplir avec les dons et talents que Dieu t'a donnés? Donc j'arrive à la conclusion. Il y en a qui disent, ah enfin, Et je reviens avec la question que j'avais mentionnée au début dans mon introduction. Quel genre d'ustensile es-tu actuellement? Ou quel genre d'ustensile veux-tu devenir pour le Seigneur? Un ustensile d'honneur, pour un usage noble, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre, ou, et là je suis gentil, hein, je prends la version française courant, un ustensile ordinaire pour un usage quelconque, peu utile à son maître, pas prêt à toute bonne œuvre. Quelle est ta réponse ce matin? Quelle est ta situation actuelle? Alors, attention, je ne veux pas mettre mal, par exemple, une jeune maman qui vient d'avoir son enfant. Ton ministère, c'est de t'occuper de ton enfant. Il y a des moments dans la vie, on ne peut pas. C'est normal. Mais si c'est toute notre vie comme ça, c'est même quelqu'un qui serait en fauteuil roulant, qui ne peut pas faire, tétraplégique, peut-être faire des choses avec la bouche, peut prier, intercéder. Il y a toujours des choses à faire pour le Seigneur. Donc, quelle est ta réponse au Seigneur? Peut-être tu as été un ustensile quelconque jusqu'à présent, mais tu peux décider de changer pour devenir un ustensile d'honneur. Dans la Bible, il y a un exemple, il y en a plus qu'un exemple, mais celui que je choisis de mentionner, c'est celui d'Onésime. Onésime, il est mentionné deux fois, je pense seulement dans le Nouveau Testament. Il est mentionné comme porteur de la lettre aux Colossiens, avec Tychique, et puis il est mentionné surtout dans la lettre de Paul à Philémon. Et il dit Onésime, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile à toi comme à moi. Et s'il dit qu'il est utile pour lui, c'est utile pour le ministère, hein, évidemment. Et il y a un jeu de mots parce que Onésime veut dire utile en grec. Et c'était un esclave, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait fui son maître Philémon et qui s'était converti au contact de Paul, et puis qui s'est mis à servir Paul, à l'aider. Et puis, selon la tradition, Onésime a été rendu libre par Philémon, qui était son maître, et il est devenu évêque d'Éphèse après la mort de Timothée. Donc on voit un grand changement. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir, peut-être, on ne sait jamais, pasteur ou un grand missionnaire ou autre, mais il y a possibilité de changement, toujours avec le Seigneur. Hein, et peut-être ce n'est pas la première fois que l'Esprit vous travaille. Hein, et qu'est-ce que tu fais pour moi? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? Puis vous êtes resté toujours là, un ustensile ordinaire. Et puis vous ne vous rendez pas compte des richesses que vous avez, des talents que vous avez. Donc, vas-tu rester inutile ou vas-tu changer et décider à être utile pour le Seigneur? On vit un temps où les gens ne sont pas trop réceptifs à l'Évangile. Hein, on a prié, merci d'ailleurs, prié pour le Luxembourg, on prie toujours. Moi je prie pour les autres régions, surtout que j'habite en Belgique, mais je prie aussi pour Luxembourg. Mais il faut bien le dire, moi je parle à mes collègues, ils m'écoutent, ils sont un peu polis, mais il n'y a personne pour l'instant. Il y en a eu un une fois qui après était intéressé. Ah ouais, dis-moi en plus. Et on est peu de chrétiens évangéliques dans cette région. Hein, si, là, moi, je viens de Suisse romande, hein, vers Genève. Je parlais de ça avec quelqu'un hier et il disait là Non, si on prend le... Je ne sais pas si vous voyez, il y a le lac de Genève pour les Genevois, le lac Léman pour les Vaudois et Valaisans. Donc c'est le plus grand lac d'Europe de l'Ouest. Hein, il y a je ne sais plus combien de kilomètres. Mais sur cette surface, la partie en Suisse, hein, parce que la partie nord est en France, il y a, peut-être 200 églises chrétiennes, évangéliques. Et puis, il n'y a pas 5 millions de personnes hein, dans cette région. Et c'est peut-être... Et peut-être 2 millions, un truc comme ça. Il y a plein d'églises. Ici, il y en a, je ne sais pas, au Luxembourg, dans tout le Luxembourg, même pas 10. Un peu plus avec les différentes langues. Il y en a peu, on est peu. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. De chacun de nous. Et puis on a des dons et des contacts où il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pourriez faire, demandez au Seigneur, il va vous le montrer. Vous allez entendre, vous allez lire un mail, vous allez voir, regarder, parler avec quelqu'un, vous pouvez parler au coup pastoral, ils ont certainement des idées, les anciens, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Et enfin, si tu es déjà un vase d'honneur, je pense qu'il y en a quand même beaucoup ici, là, je suis sûr, désolé. Donc, gloire à Dieu. Que le Seigneur t'encourage, renouvelle tes forces à son service. Une fois, en tout cas, je pense, une fois qu'on soit, on sera arrivé dans la gloire, je pense que tout le monde préférait que le Seigneur nous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Je pense qu'on préférait ça plutôt qu'ils nous disent « Serviteur mauvais et paresseux. » Prions.